Alors on dit quoi?
Bonjour, alors on dit quoi? Les jeunes se mobilisent de plus en plus pour le climat. Des figures comme la jeune suédoise Greta Thunberg, qui a initié le mouvement écologique Fridays for Future, afin de mobiliser les jeunes du monde entier. Qu'en est-il de l'Afrique à l'approche de la COP26 qui se tiendra du 31 octobre au 12 novembre prochain? Êtes-vous impliqué dans des initiatives pour protéger votre environnement? Comment les jeunes peuvent-ils contribuer à la lutte contre les effets du changement climatique?
Alors, on dit quoi? Benaï Traoré.
Voici quelques messages d'auditeurs. Sidi B. Junior de Conakry en Guinée. Pour moi, lutter contre les effets du changement climatique passe nécessairement par les sensibilisations des citoyens, tout en les aidant par les actions émanant de l'État, la protection des faunes, la propriété des villes, la protection des cours d'eau et j'en passe. Emmanuel de la Côte d'Ivoire nous écrit « L'éducation et la justice sont indispensables pour faire avancer la lutte contre les effets du changement climatique. » Car par l'éducation, on acquiert, puis on approfondit des connaissances. Par la justice, les lois sont respectées. En plus, elles sanctionnent et condamnent les infractions. Ça, c'est l'avis d'Emmanuel. Mais malheureusement, les lois ne sont toujours pas respectées hein, comme il se doit. Et je vous laisse écouter cet auditeur du Mali.
Bonjour RFI, moi c'est Amidou Almami Diawara, président de l'ONG MSD. Les effets visibles du changement climatique au Mali sont très visibles aujourd'hui, malheureusement, vu le constat, notamment la perte de la biodiversité, faune et flore, notamment la dégradation des sols cultivables dits à l'utilisation abusive des produits chimiques, les coupes abusives des bois de chauffe pour la restauration et autres, la commercialisation des charbons, et ce qui traduit par une détérioration sans précédent de notre biodiversité et de notre écosystème. Aujourd'hui, le message que moi je voudrais porter, c'est m'adresser à la jeunesse malienne, africaine. Et les seules ressources naturelles disponibles que nous disposons aujourd'hui est notre seul patrimoine auquel nous devrons contribuer à sauvegarder et à préserver pour aller vers une transition agroécologique, une transition énergétique avec les jeunes. Donc nous devrons être des gardiens, des soldats, pour préserver l'essentiel, pour que dans les années à venir, nos enfants et nos arrière-enfants puissent contribuer à améliorer leurs conditions de vie. Je lance un appel à toute la jeunesse malienne.
Merci à ces auditeurs pour leur message d'espoir. Alors en Afrique, il y a aussi des modèles qui se distinguent dans la lutte pour la protection de notre environnement. La Tchadienne Hindou Oumarou Ibrahim est notre invitée aujourd'hui. Vous n'avez pas pu venir en studio parce que vous êtes très sollicitée, surtout à l'approche de la COP26. Bonjour et bienvenue.
Bonjour, merci beaucoup et désolée de ne pas être avec vous à l'estudio.
Alors vous êtes géographe, militante autochtone de la communauté Peul Mbororo pour le climat et la coordinatrice de l'AFPAT, l'association des femmes Peul et autochtones du Tchad. Alors Hindou Oumarou Ibrahim, vous avez entendu hein, ces messages d'auditeurs, l'information et la sensibilisation seules suffisent-elles?
Alors, j'ai bien écouté les deux auditeurs et je pense que l'information et la sensibilisation, ça ne suffisent pas. C'est vrai, c'est un processus où il faudrait parler avec les gens, mais pour le moment, tout le monde vit l'effet du changement climatique. Est-ce qu'il faut encore les informer, surtout ceux qui sont en Afrique?
Oui.
Peut-être qu'il faut mieux informer ceux qui ne sont pas en Afrique, qui sont dans les pays développés et qui continuent à polluer la terre, qui continue à vivre d'une vie qui n'est pas respectueuse de la nature. C'est eux qui ont besoin d'être sensibilisés, oui, et informés. Mais nous, on est déjà dans la réalité, comme l'a dit l'auditeur du Mali, que les effets sont avec nous tous les jours.
Vous êtes de la communauté Peul Mbororo. Comment aujourd'hui cette communauté-là souffre des effets du changement climatique?
Les communautés nomades et les communautés autochtones partout dans le monde en souffrent de ces impacts climatiques. Et particulièrement dans ma communauté, les gens, ils ne dépendent pas des salaires à la fin du mois pour aller au marché acheter à manger. Ils dépendent si quand la pluie arrive et que la végétation pousse et que le bé puisse brouter et avoir du lait et le vendre ainsi de suite, faire une économie circulaire.
Oui.
Ou bien, si la pluie arrive, ils ont l'agriculture pour pouvoir avoir à manger qui pourra suffire toute l'année attendre l'autre saison de pluie qui arrive. Mais or, les pluies ne viennent pas normalement ni régulièrement. Alors du coup, on finit toujours par l'inondation ou par la sécheresse qui impacte l'insécurité alimentaire. Et c'est ça qui augmente aussi les conflits intercommunautaires pour accéder à ces ressources qui sont devenues de plus en plus rares.
Et alors, comme vous l'avez dit tout à l'heure, les pays africains ressentent déjà les effets du changement climatique. Nous allons en Guinée pour écouter le reportage de notre correspondant Alpha Barry.
En Guinée, la montée des eaux devient de plus en plus inquiétante. Certaines localités, à l'image du village de Monchon dans la préfecture de Bofa, sont menacées de disparition. Pour limiter les conséquences des changements climatiques, les spécialistes des questions environnementales conseillent l'implication de tous. Et les jeunes ne sont pas en marge de cette lutte, nous dit Fatoumata Stel Conté. Elle est chargée de programme climat à Écologie Guinée, une ONG qui milite depuis plusieurs décennies dans la lutte contre les effets du changement climatique.
Les jeunes rencontrent les autorités, ils montent les projets pour lutter contre ce fléau. Ils ont aussi leur manière de participer à ce combat en faisant des marches climatiques, juste pour éveiller les consciences et attirer l'attention du gouvernement sur ce fléau pour qu'ils puissent vraiment agir dans ce sens. Aider la communauté, parce que c'est nous, les jeunes, c'est nous qui devons vraiment nous donner à ce combat pour ne pas détruire l'avenir de la génération future.
Sur le terrain, les efforts de Fatoumata Stel Conté et de plusieurs autres jeunes Guinéens produisent des résultats, notamment dans les régions de Boké et Labé.
Par exemple, dans les îles Cristao, quand vous partez là-bas, vous allez voir qu'on a donné des foyers améliorés aux femmes pour réduire la coupe abusive des bois. Nous faisons la formation des jeunes au sein même de l'organisation. Et aussi à Bofa, nous avons fait des reboisements.
Vivre dans un environnement sain et durable nécessite l'implication de chaque citoyen, notamment les foyers qui produisent énormément de déchets ménagers et des plastiques. En Guinée, c'est en moyenne 2000 tonnes de déchets qui sont produits par jour selon le Centre d'études et de recherche en environnement serré. Alors, l'un des moyens les plus sûrs pour obtenir l'adhésion des populations dans la lutte contre la dégradation de l'environnement et diminuer les effets du changement climatique, c'est la sensibilisation. Fatoumata Stel Conté en est consciente.
La réussite d'une mobilisation dépend très souvent du travail de sensibilisation. Quand une personne est bien sensibilisée, personne ne va directement adhérer à l'idée. Par exemple, quand nous partons sensibiliser les communautés pour la protection de l'environnement, on essaie d'abord de les faire connaître l'importance de la forêt et d'arrêter la coupe abusive du bois au sein de cette forêt, leur parler vraiment de l'importance, ce que la forêt nous donne comme service écosystémique. S'ils coupent ces bois, ils n'auront plus de fruits, ils ne pourront plus faire de cueillettes. En élevant en fait leur conscience.
Sensibiliser les populations sur les causes et les conséquences du changement climatique, Idiatou Camara, administratrice d'un média dédié à l'environnement en Guinée, en a fait sa priorité. Pour atteindre son objectif, cette jeune dame a créé un site internet d'information et elle travaille aussi à diffuser en ligne une radio qui n'a pas encore commencé à émettre, mais qui existe et qui va vers les populations.
Cette radio a été créée pour informer, donc c'est l'information, l'éducation, la sensibilisation des acteurs concernés qui sont à la fois étatiques et non étatiques, les ONG, les femmes, les associations de jeunesse et les jeunes en particulier sur la protection de nos écosystèmes. Nous essayons d'interroger des personnes ressources, des acteurs à la fois étatiques, non étatiques, les partenaires, les institutions de la Guinée qui s'implique sur les questions environnementales pour leur demander ce que ces institutions font et quels sont les défis, les grands enjeux de la protection. préservation de notre biodiversité.
Les jeunes ont certes plein d'initiatives, mais la réalisation de certaines activités dans le cadre de la lutte contre les changements climatiques pose problème. Faute de moyens, certains projets tardent à démarrer et d'autres meurent sans voir le jour, comme le témoigne Igiatou Camara.
Nous sommes dans un pays où les informations sont dominées par les questions politiques, politiciennes et aussi le problème de financement. C'est quand même très difficile, ça fait 4 ans que Radio Environnement existe, nous sommes une radio web, mais que les populations ne prennent pas très au sérieux. Donc si nous avons les moyens, nous comptons mettre en place une radio en tant que telle et pourquoi pas au-delà.
La rare des pluies, le décalage des différentes saisons, l'avancée du désert et les chaleurs de plus en plus extrêmes sont entre autres les effets néfastes du changement climatique dans plusieurs parties du continent africain.
Le reportage d'Alpha Barry pour Alors on dit quoi depuis la Guinée. Alors Hindou Marou Ibrahim, vous avez écouté ce sujet avec nous. Il y a la question de financement qui se pose et également la question de l'implication des communautés.
Tout à fait. Et je crois que c'est par des actions dont on doit lutter contre le changement climatique et les actions ont besoin d'être soutenues techniquement et financièrement, et les actions doivent être au niveau des communautés, parce que organiser des conférences au niveau international, oui, c'est important si cela aboutit à faire des réglementations, des textes juridiques qui peuvent être contraignants pour protéger l'environnement. Mais le fait d'avoir des actions concrètes dans les communautés peuvent réduire immédiatement ce qu'on est en train de subir comme les gaz à effet de serre. Et l'accès au financement, comment ça se passe? La plupart du temps, il faudrait que les gens qui connaissent lire, écrire, remplir des centaines de pages et après produire des rapports. Or, les communautés qui sont déjà pas allées à l'école pour la plupart et qui ont d'autres priorités pour se faire nourrir, est-ce qu'ils ont le temps d'aller dans toutes ces procédures qui sont très compliquées? Et est-ce que ces procédures qui sont aussi créées par les pays développés peuvent être applicables chez nous? Est-ce que c'est ça notre réalité? Donc c'est pour ça qu'en parlant du climat, pour accès au financement pour les communautés, il faudrait changer ces systèmes. Il faudrait donner à ma grand-mère, ma tante, ma cousine, qui peuvent être des ingénieurs de la nature, la manière et les moyens de le faire, sans pouvoir leur demander de remplir des tableaux Excel dont elles ne comprennent pas, mais elles connaissent très bien comment lutter contre le changement climatique. Oui.
Mais comment, dans ce cas, adapter cette lutte-là au mode de vie des communautés pour les impliquer davantage?
Alors, il faudrait d'abord aller vers ces communautés. Il ne faudrait pas attendre ou bien rester dans des bureaux et décider que il est très important de faire un projet de l'eau ou bien un projet d'agriculture. Or, si on n'est pas allé vers ces communautés, on ne connaît pas leurs priorités et on ne peut pas répondre aux défis dont ils vivent de jour en jour. Donc, les changements climatiques, ce n'est pas seulement les grandes photos dont on voit sur la sécheresse, l'eau, ainsi de suite, mais c'est la réalité de tous les jours des gens dans les communautés qui en vivent. Et il faudrait aller là-bas pour répondre à ces besoins et il faudrait les écouter plus tôt. Donc, il ne faudrait pas se dire qu'on est désespéré parce qu'on a des doctorats ou parle le français et on décide pour les autres. Ils sont les experts, alors il faudrait les écouter d'abord et faire les projets ensemble avec eux.
Restez avec nous à Hindou, nous accueillons Aissatou Keïta qui est au Sénégal, elle est vice-présidente du club Changement Climatique de Ziguinchor. Bonjour Aissatou.
Oui, bonjour Madame Traoré.
Bienvenue à vous.
Merci à vous pareillement.
Alors Ziguinchor est au sud du Sénégal, comment le changement climatique se ressent dans cette région?
Bon, comme on a l'habitude de le dire, Madame Traoré, les changements climatiques n'épargnent aucun point du globe. Donc, Ziguinchor en fait partie. Et comme la plupart des zones côtières, Ziguinchor en fait partie. Donc, ici, les effets des changements climatiques sont visibles et palpables. Je citerai d'abord, par exemple, la baisse des pluviométriques. La zone de Ziguinchor a été reconnue comme la zone verte du Sénégal, le grenier du Sénégal. Mais aujourd'hui, bon, je dirais que nous sommes confrontés à ce déficit de pluviométrie qui impacte aussi dans nos systèmes de culture. Parce que la zone est reconnue aussi à travers la riziculture et plus particulièrement la riziculture qui se fait au niveau des bas-fonds, donc la riziculture qui se situe donc entre la mangrove et les zones d'habitation. Donc, avec la déficit pluviométrique, il y a plus d'eau de pluie qui peut irriguer les rivières.
Oui.
Donc, c'est juste, et voilà, il y a l'intrusion marine, c'est-à-dire que la salinisation des terres va augmenter et à cela s'ajoute aussi l'acidification. Parce que la salinisation accrue et voilà, induit à une acidification. Ça impacte gravement aussi sur la sécurité alimentaire des populations. Parce que c'est une zone qui est reconnue pour ça, pour la production. L'autonomisation, surtout en production de riz, c'est des ethnies qui n'ont jamais acheté de riz. Donc aujourd'hui, ils sont confrontés à ce problème.
Et votre association, le Club Changement Climatique de Zeguinchor, votre première mission dans ce club est de sensibiliser les jeunes sur les changements climatiques. Et quelles sont les actions concrètes, au-delà de la sensibilisation, quelles sont les actions concrètes que vous menez?
Voilà, au-delà de la sensibilisation, nous sommes dans des actions de terrain, à commencer par le reboisement, surtout dans le cadre de l'érosion côtière aujourd'hui. L'érosion côtière nous guette. Presque 21 îles de la Basse-Casamance sont menacées de disparition. Donc, dans le cadre de la société civile, on s'organise pour faire des activités de reboisement le long de la côte, surtout des espèces cibles telles que le Silao et le Niaouli, pour mieux fixer les dunes et renforcer les barrières naturelles. Que sont les moyens que nous avons pour le moment? Il n'y a pas de gros moyens. On ne peut pas être là à attendre que l'État vienne intervenir pour débloquer de grosses sommes. Donc, dans le cadre de la citoyenneté active, nous menons des activités de reboisement le long de la côte. À cela s'ajoute aussi des reboisements dans les forêts communautaires pour renforcer la biodiversité aussi, un peu augmenter la résilience des populations avec des espèces locales qui peuvent être sources de revenus pour eux. Mais aussi, nous sommes dans les écoles, voilà, pour des activités similaires de reboisement, un peu dans l'entrepreneuriat agricole, apprendre aux enfants comment produire, juste pour augmenter la résilience et les préparer pour qu'ils soient encore plus autonomes pour faire face aux effets des changements climatiques.
Est-ce que vous avez l'adhésion des jeunes à toutes ces activités?
Oui, effectivement. Déjà, le club, c'est un club de jeunes. Il n'y a que des étudiants, des élèves et autres qui sont là-bas. Donc, c'est un club de jeunes, je dirais. C'est un club de jeunes constitué majoritairement à 90% de jeunes. C'est ce qui fait la beauté de ce club.
Bon,
oui. Nous voulons juste voilà, responsabiliser les jeunes face aux enjeux des changements climatiques parce que la jeunesse, c'est l'avenir. Ils doivent être au devant de la scène pour mieux se préparer afin d'augmenter notre résilience actuelle et future aussi.
Merci beaucoup, Aissatou Keïta.
Merci beaucoup, Madame Traoré. C'était un plaisir.
Alors, on dit quoi?
Avant de redonner la parole à notre invité, prêtons une oreille à Chedima qui nous chante Fallen in Love.
Ah.
Retour en plateau pour ceux qui nous rejoignent seulement maintenant. Vous écoutez Alors on dit quoi sur RFI. Je suis accompagnée au téléphone par la militante autochtone Peul Mbororo Indou Oumarou Ibrahim. Alors Indou, les jeunes, l'implication des jeunes dans cette lutte-là, c'est très important aujourd'hui. Surtout qu'on voit que de plus en plus, ils ont conscience de cette menace-là.
Oui, là, c'est même pas la question, quoi. Impliquer le jeune, c'est tout à fait la solution et ce qu'il faut. Parce que quand on parle du changement climatique, surtout si on se projette sur on a besoin de réduire les émissions à 1,5 d'ici 2030 ou bien à être zéro net carbone en 2040 ou 2050,
oui.
Ça veut dire qu'on est en train de parler de la vie de cette jeunesse d'aujourd'hui qui va être l'adulte et la gestionnaire de tout le monde entier de demain. Et s'ils ne sont pas impliqués à partir de maintenant, donc ça veut dire que les solutions sont vraiment à moitié et peut-être même pas à moitié. Mais or, la chance qu'on a, les jeunes de maintenant sont très conscients des impacts climatiques et ils ne se laissent pas faire. Ils se lèvent partout. Et j'ai entendu dans ton introduction parler de Greta et alors qu'est-ce qu'on en a de l'Afrique? On en a des jeunes aussi comme Greta qui sont là. On a Vanessa qui est...
Vanessa Nakat qui est ougandaise.
Exactement, qui est ougandaise. On a les autres au Kenya, on a les autres au Tchad. On a des jeunes qui ont entre 10 et 14 ans au Tchad qui ont fait les tours de COP. Alors, partout en Afrique, on a la jeunesse qui est consciente, mais qui s'élève pour demander aux États de prendre les responsabilités et qui font aussi des actions au niveau de leur communauté pour essayer de leur parler, de changer d'habitude de tous les jours.
Et on s'est rendu compte, quand ces jeunes prennent la parole, ce sont des millions de jeunes à travers le monde qui les suivent, qui les écoutent. Ça veut dire qu'ils ont ils ont un gros impact.
Mais heureusement, quoi, maintenant, on a la communication qui est différente qu'à l'époque de nos parents. Donc, les jeunes se communiquent à travers les réseaux sociaux et ils se comprennent sur qu'est-ce qu'ils disent. Dès qu'ils disent qu'on a un problème, ils font un appel, tous les autres jeunes sortent avec eux. Et en fin de compte, on a des millions de jeunes dans les pays développés, en développement, qui sortent tous pour la même cause. Comment protéger notre climat?
Comment protéger notre climat? C'est aussi le combat d'Ayouba Sani qui est au Niger. Bonjour Ayouba.
Oui, bonjour Madame Traoré.
Vous êtes le directeur exécutif de JVE, Jeunes Volontaires pour l'Environnement, c'est au Niger, comme je l'ai dit tout à l'heure. Dites-nous pourquoi les jeunes Nigériens se sont sentis interpellés pour la cause du climat?
Oui, je pense que depuis presque 20 ans, le Niger est un pays du Sahel. Nous vivons plus que d'habitude les effets du changement climatique. Et il est important, nous depuis à l'école primaire, on parle toujours que les déserts avancent, il faut planter des arbres. Mais jusque-là, la phrase n'a pas changé. Et donc, nous nous sommes dit qu'il est très important pour nous de nous engager dans ces combats pour davantage trouver des solutions parce que c'est de notre avenir qu'il s'agissait. Avant, il y avait peut-être quelques années, on était des enfants, c'était les mêmes problèmes. Aujourd'hui, ces problèmes s'accentuent et nous, on commence à avoir des enfants aussi, donc il est important qu'on trouve, qu'on soit en tout cas du côté de la solution, puisque des solutions existent. Donc voilà, entre autres raisons qui nous motivent. Et puis quand on voit l'insécurité alimentaire, quand on voit les niveaux, en tout cas la vitesse avec laquelle nous vivons les risques de catastrophes, tels que les sécheresses qui ne sont plus cycliques, qui sont annuelles. Avant c'était chaque 10 ans, aujourd'hui chaque année il y a oui. des sécheresses, il y a des inondations. Donc c'était des raisons qui nous poussent à dire qu'il est important qu'en tant que jeunes, on s'engage pour trouver des solutions parce que, comme disait tout à l'heure Madame Indou, avec laquelle nous avons fait d'autres batailles aussi sur ces chemins, qu'il faudrait que les jeunes s'engagent pour trouver des solutions durables. Donc voilà entre autres ce qui motive la jeunesse aujourd'hui nigérienne. Nous, avec la COP 2009 qui nous avait lancé, et aujourd'hui, c'est de plus en plus de jeunes qui s'engagent, que ce soit des universitaires en milieu urbain, ou des jeunes paysans, agriculteurs en milieu rural, qui s'investissent pour apporter en tout cas des solutions pour changer la façon de vivre avec le changement climatique. Parce qu'on se rend compte que L'impact est de plus en plus impressionnant, donc on ne peut que vivre et trouver des solutions pour renforcer notre résilience.
Et le JVE intervient beaucoup plus sur les réseaux sociaux hein, pour essayer d'informer les jeunes sur les plateformes numériques. Notamment, vous vous intéressez à la question des réfugiés climatiques. Pourquoi ?
Absolument. Vous savez, le Niger est un pays dont l'économie se repose sur l'agriculture et l'élevage. Et c'est des activités qui sont durement impactées par les effets du changement climatique. Et c'est les jeunes qui en souffrent le plus. Surtout, nous avons 70% de la population qui est jeune et qui vivent en milieu rural. Et ces jeunes dépendent de l'agriculture qui est pluviale. Donc la saison des pluies au Sahel, c'est 3 mois au maximum. Et aujourd'hui, les rendements, en tout cas la production, ne permet plus de pouvoir vivre pendant les 9 autres mois avant la saison des pluies. Du coup, donc, on constate qu'il y a ce mouvement de migration qui s'accentue, qui est perçu d'ailleurs comme une solution, en tout cas une solution d'adaptation. Et en plus de cela, aujourd'hui, ce que nous ne connaissons pas, même dans le désert, dans des zones désertiques telles qu'Agadez, dans le nord du pays, il y a des inondations de plus en plus qui font en sorte que les gens sont obligés d'abandonner en tout cas leurs habitants, leurs villages, etc., pour aller dans des zones où il y a moins d'inondations. Donc c'est un contexte de migration que nous ne comprenons plus, qui s'accentue de plus en plus. Et nous pensons que nous devons réfléchir pour trouver des solutions pour que si la migration est considérée comme une solution d'adaptation face au changement climatique, comment considérer cela pour qu'il y ait une reconnaissance des droits, en tout cas par rapport aux droits des réfugiés climatiques qui n'est toujours pas un acquis. Et aujourd'hui, un peu partout dans le monde, nous constatons cela. Les gens sont obligés de se déplacer, sont obligés d'émigrer parce qu'il y a des crises climatiques, il y a des crises, des risques de catastrophes. Donc voilà pour nous l'intérêt. Et l'usage des réseaux sociaux, pour nous, ça nous permet aussi d'être en communion directe avec la jeunesse. Qui est utilisatrice, en tout cas, de cette nouvelle voie de communication. Donc, à travers les campagnes que nous menons, nous contribuons à la prise de conscience, nous contribuons au partage des bonnes pratiques que nous découvrons sur les terrains, qui sont la plupart du temps portées par des communautés. Donc, nous essayons, en tout cas, de rendre ces bonnes pratiques plus visibles et aussi de véhiculer le message par rapport à l'urgence climatique, par rapport à la crise, pour que nous puissions tous, en tout cas, ensemble, prendre conscience de cela. Voilà ce qui explique une adhésion de plus en plus massive des jeunes dans nos activités ou pour la cause de la préservation de l'environnement.
Restez en ligne avec nous, Ayouba Sani. Je me tourne vers notre invité, Indou Oumarou Ibrahim. Votre association, l'AFPAT, intervient dans des campagnes de formation sur les droits des peuples autochtones et surtout hein, d'adapter leur mode de vie au changement climatique. Et quelles conséquences le fait de partir, de quitter l'endroit où l'on vit, quelles conséquences cela peut-il avoir sur ces populations locales, Indou?
Alors, je pense que mon frère Ayouba l'a dit, quand les communautés sont obligées de se déplacer à l'intérieur même de chez eux, ils deviennent des réfugiés intérieurs de chez eux-mêmes. Et si certains, ils quittent les pays, ils deviennent peut-être des migrants, comme on l'a dit. Mais or, il n'y a pas une définition claire au niveau international qui leur donne... Et ça, quand même, ce n'est pas du tout acceptable qu'il y ait des millions de personnes qui se déplacent. Donc, pour ma communauté, quand ils doivent se déplacer d'un endroit à un autre, juste pour suivre l'eau et les pâturages, alors ça veut dire que là où ils passent, les bouses des vaches fertilisent la terre. Et à leur retour, ils trouvent des agriculteurs qui s'installent. Et c'est ça qui est source de conflits intercommunautaires.
Oui.
Et pour eux, ils perdent complètement leur identité parce que les lieux, pour nous, ce n'est pas seulement un endroit où on passe pour extraire les ressources naturelles, mais c'est un endroit où on a notre identité. Et c'est pour cela aussi qu'on les protège beaucoup plus. Alors, les activités de AFPAT, qui est l'association de femmes peuples autochtones du Tchad, c'est fait aussi sur la bonne gestion des ressources naturelles pour que les communautés puissent répartir et vivre là où ils sont pour reconstruire leur résilience avec les écosystèmes dont ils sont habitués à gérer.
Merci beaucoup, hein, Ayouba Sani, d'avoir participé à l'émission. Merci à vous.
Merci, au revoir.
Hendo Ibrahim, on le dit souvent, hein, ce sont les pays africains qui sont le plus exposés aux effets du changement climatique, alors que les puissances occidentales comme la Chine, l'Europe et les États-Unis sont celles qui émettent le plus de gaz à effet de serre. Alors, vous avez dit dans une interview que le lac Tchad avait perdu 90% de sa surface en 40 ans. On sait que près de 40 millions de personnes vivent autour ou sur le lac Tchad. Aujourd'hui, ces populations sont obligées peut-être de quitter leur lieu de vie.
Oui, absolument. Et c'est ça qu'on appelle l'injustice climatique. Parce que ceux qui sont les plus émetteurs, et ils ne subissent pas cette injustice, mais or, nous qui n'ont émis zéro presque, on est en train de subir ces impacts du changement climatique. Les communautés qui vivent autour du lac Tchad, qui partagent ces ressources entre 5 pays, qui vivent en dépendant de ces ressources-là pour leur survie de tous les jours, parce que ce sont des agriculteurs, des pêcheurs, des éleveurs, ils sont en train de voir leur vie se périr devant leurs yeux. Parce que l'eau, c'est la source de vie pour tout le monde. On peut être un président de la République, comme on peut être un clochard dans la rue. On a besoin de l'eau pour boire, on a besoin de la nourriture pour manger.
Absolument.
C'est pour ces gens-là, on est en train de leur arracher leur manger et leur survie. Alors, il faudrait que cette justice climatique soit rendue à ces populations qui sont en train de souffrir autour du lac Tchad.
Vous allez participer dans quelques jours à la COP26 qui aura lieu à Glasgow, au Royaume-Uni. Alors, qu'est-ce que vous attendez de cette rencontre?
Absolument. Ben, moi, ce que j'attends particulièrement, c'est que ces États développés prennent la décision de réduire leurs émissions et de les réduire maintenant. On est en train de perdre l'objectif de Paris qui est de réduire les émissions à 1,5 degré parce que au Tchad et dans quelques pays autour de nous, on est déjà à plus 1,5 degré. Et quand on regarde les rapports du groupe d'experts, on dit d'ici 2030, si on ne fait rien, on va passer les 1,5 et pour nous, ça va faire plus 3 degrés.
Oui.
Imaginez, pendant la saison sèche, on est déjà à 50 degrés à l'ombre. Et si on a 54, je pense que rien ne peut vivre à ça. Donc, je me bats d'abord pour qu'ils puissent réduire les émissions en respectant l'objectif de Paris. Deuxièmement, ils doivent penser à l'adaptation parce que pour eux, c'est facile de parler de l'atténuation pour réduire les émissions, planter les forêts, parce que c'est simple. Or, nous, on a besoin de l'adaptation. On est déjà en train de vivre ces impacts. Et comment mettre l'adaptation au même niveau que l'atténuation? Et le mettre au même niveau, ça veut dire qu'investir plus de financement. Mm-hmm. Donc, les financements climat doivent être à la hauteur ou la moitié ou même plus doit financer l'adaptation des pays en développement. Et on doit avoir l'accès à ces financements, parce que la plupart des temps, qui ont eu l'accès à ces financements? C'est les pays émergents, encore comme la Chine ou bien comme l'Afrique du Sud. Mais les pays comme le Tchad, comme le Mali, le Niger, on en a besoin de cet argent tout de suite. Et on en a besoin sans que ça soit contraignant. Et le dernier point dont on demande, c'est comment cette COP pourra financer les solutions portées par les peuples autochtones.
Ouais.
Donc, on a une demande de 1 milliard de dollars pour un débit des projets directement financés par les autochtones.
Alors, on dit quoi?
La protection de la planète est préoccupante pour les artistes également et notre coup de cœur musical de la semaine est une chanson consacrée au climat avec le musicien sénégalais Omar Penn qui une fois de plus montre son engagement pour les causes sociales, économiques et environnementales. Bonjour Omar Penn.
Bonjour.
Alors qu'est-ce qui a été le déclic pour vous? Quand est-ce que vous vous êtes dit qu'il y a une nécessité d'écrire cette chanson?
Ben parce que en fait, je crois que c'est un constat que j'ai fait par rapport au réchauffement climatique, parce que c'est un problème qui nous interpelle encore une fois, et que comme je suis un porteur de voix, je me suis dit pourquoi pas ne pas associer ma voix à celles qui se sont déjà élevées pour en parler, pour sensibiliser non seulement pour que les gens puissent prendre conscience du fait que ce problème-là existe. Et que carrément, si vraiment il faut que tout le monde, je crois, prenne les décisions qu'il faut, encore une fois, pour pouvoir apporter des solutions, surtout nous qui sommes en Afrique. Nous commençons déjà à subir quand même les conséquences de ce dérèglement mondial là.
En tant qu'artiste, pourquoi vous vous êtes senti concerné par cette problématique?
Ben, en tant qu'artiste, je suis très engagé, hein, encore une fois, parce que je crois que je porte ma voix pour sensibiliser, pour dénoncer, pour apporter, encore une fois, ma contribution sur ce que pourrait faire avancer les choses. Moi, je suis africain, je suis panafricaniste, je suis citoyen du monde. Vous voyez un peu, donc voilà, le réchauffement climatique, tout en plus qu'il y a des
climato-sceptiques.
Justement, et je pense qu'à cela, il faut quand même leur apporter le langage de la vérité, de la réalité, parce que c'est quelque chose qui existe, justement, parce que nous vivons cela, justement. Parce que moi, je vis au Sénégal. Et que au nord, chez nous, encore une fois, dans la région de Saint-Louis, nous avons quand même constaté des effets dus au réchauffement climatique, parce que dans la région de Saint-Louis, il y a la langue de Barbarie, mm-hmm. et comme on a constaté, il y a l'océan qui commence à récupérer certaines habitations. Donc, vous voyez un peu. Donc, tout ça est dû à cela. Donc, je pense qu'il faut que les gens prennent conscience, justement, pour que les Africains aussi prennent conscience que c'est un phénomène. Il faut se réunir, il faut quand même se concerter pour en parler. Parce que déjà, il y a des COP qui ont été organisées jusqu'à présent. Aucune solution n'a été trouvée. Je pense qu'il faut quand même que l'Afrique, les Africains se lèvent et éventuellement pour défendre l'intérêt du continent. Parce que sinon, si jamais une catastrophe se produit, je ne peux pas imaginer les conséquences que les Africains vont subir.
Merci beaucoup, Omar Penn.
C'est moi.
Merci à vous et très bonne journée. Merci d'avoir pris le temps de participer à l'émission sur ce sujet qui nous concerne toutes et tous et dont le titre « Climat » est notre coup de cœur de la semaine. On l'écoute ensemble.
Solution Le réchauffement climatique et ses conséquences, sécheresse et raison côtière, disparition d'espèces, famine, pauvreté, maladie, exode, migration. Dégloulé, mon warlé, pourtant, n'y won, balégi, n'y tok, n'y ka, balégi, drama, gulsi, dunia, moulé, n'y fête, sa oujante, n'y si yo, pourtant, sunubi, n'arte, moussiba, bunyawe, signon, lay. Na meti kon gañi waxta war nañu gañi deglu len ma wax len la faxa gañu dajé won waxta cop climat pointe balégi ñu ngi ut solution mu jafé lol si dunya war nañu
Indou, ça sera votre mot de la fin. Vous avez entendu Omar Penn, la culture, les artistes peuvent-ils aussi contribuer à changer les choses?
Je pense que tout le monde a son rôle à jouer. Comme vous êtes là en tant que journaliste, vous contribuez à animer cette émission. Les artistes aussi ont un rôle à jouer parce que les messages dont ils font passer, la manière dont ils vont faire passer les messages, peuvent aussi informer beaucoup de gens et inciter les politiques, les acteurs du développement à intégrer entièrement les changements climatiques. Et ça peut aussi aider les communautés à comprendre qu'est-ce qui les arrive parce qu'ils n'émettent pas et donc la plupart du temps, ils sont juste des actionnaires. Ils mettent leurs efforts pour lutter contre le changement climatique. Ils ont le droit de comprendre ce qui les arrive. Et les artistes sont les meilleurs à faire ce genre de travail.
Surtout quand ils s'adressent aux communautés dans leur langue.
Absolument, dans leur langue, c'est encore meilleur parce que c'est comme ça qu'ils comprennent. Moi, je ne pense pas que les gens dans les communautés, ils comprennent quand on dit adaptation, atténuation ou la COP. Donc, ce n'est pas les mots dont ils sont habitués. Ils sont habitués de comprendre dans leur langue et dans leur manière de vie. Et les artistes sont les mieux placés pour le faire. Et je salue vraiment Omar dans sa campagne de lutte contre le changement climatique.
Merci à notre invitée, la militante autochtone de la communauté Peul Mbororo. Pour le climat, Indou Oumarou Ibrahim, vous êtes aussi coordinatrice de l'AFPAT, l'association des femmes Peul et autochtones du Tchad. Merci beaucoup à vous d'avoir pris le temps d'être avec nous.
Merci beaucoup, madame. C'est vraiment un grand plaisir et à bientôt pour débriefer de la COP.
Oui. On vous propose aujourd'hui dans l'initiative de la semaine Plastcycle, un projet de recyclage du plastique et du textile porté par le jeune entrepreneur ivoirien Aboubacar Bamba. Il est aussi le lauréat du programme Meet Africa qui vise à créer un lien entre les entrepreneurs de la diaspora et le continent africain. J'ai pu le rencontrer à Montpellier lors du sommet Afrique-France le 8 octobre dernier. Bonjour Aboubacar Bamba.
Bonjour.
Vous êtes le concepteur d'un projet qui s'appelle Plastcycle. De quoi s'agit-il?
Alors, Plastcycle est un projet d'installation d'usine donc, pour faire du recyclage de déchets plastiques et textiles en Côte d'Ivoire. Donc, ça sera la première en Côte d'Ivoire et en Afrique pour le recyclage du textile. Donc, l'idée, c'est de fabriquer des granulés pour fournir l'industrie en matière première. Et en second plan, produit des objets d'éco-conception afin de proposer des produits en fonction des besoins. Et nous focalisons plus sur l'éducation. L'idée, c'est de dupliquer le projet qui existe déjà en France, qui est une innovation apportée par Plastcycle. Je fais la nuance parce que nous, on est Plastcycle. Voilà, qui produit des kits scolaires, règles, rapporteurs, équerres. Et donc nous, on va dupliquer ce projet aussi en Afrique, donc pour investir les écoles. Et notamment, on souhaiterait on travaille sur un prototype de table banc afin de créer des table bancs hybrides pour lutter contre la déforestation et l'utilisation du bois massif pour équiper les écoles.
Pourquoi vous avez décidé de vous axer sur les kits scolaires et le matériel qu'on retrouve dans les salles de classe?
Alors, symboliquement, c'était important pour nous que les enfants à qui on dit il faut recycler, c'est important, qui voient les retombées du recyclage directement. Donc, en proposant un produit dont ils connaissent eux la valeur et dont ils ont l'exemple palpable sous leurs yeux, notamment la table banc ou bien les kits scolaires, cela permet aussi de concrétiser la nécessité de la collecte des déchets et de la gestion de déchets ménagers.
Et là, le projet, il est en cours. Quelles sont les difficultés que vous rencontrez? Même si vous avez déjà une entreprise, j'imagine que cela ne s'est pas fait sans difficulté.
Oui, il y a 2 ans, on est parti sur le projet à fond. Et donc, c'est 2 ans où on a participé à pas mal d'appels à projets pour pouvoir lever assez de fonds, de sorte à se présenter devant des banques avec un apport important. Ce n'est toujours pas le cas parce qu'il y a des difficultés, l'administration et les subventions existantes sont souvent portées sur le social et non sur l'entrepreneuriat. Et c'est difficile en fait de collecter sans qu'on nous demande de l'expérience, sans qu'on nous demande d'être un existant. Donc ces problématiques-là donc viennent durcir en fait le mode de financement en Afrique. Donc c'est les difficultés que nous avons rencontrées. Mais au bout de 2 ans de maturité, nous avons des banques et des investisseurs qui sont intéressés pour financer ce projet. Mais on en cherche toujours. Donc, je lance un appel donc aux investisseurs qui aimeraient nous aider à nous implanter en Côte d'Ivoire et pourquoi pas dans le reste de la sous-région, parce qu'on cible également le Mali, la Guinée, le Sénégal, qui ont la même problématique, hein, y compris pour donc le matériel scolaire, mais pareil pour donc l'environnement, donc avec les déchets plastiques.
Et aujourd'hui, à part les bailleurs de fonds, de quoi avez-vous besoin concrètement?
Alors, il y a d'autres besoins tels que les réglementations, la juridiction. Donc, les réglementations par rapport à l'activité même donc de la plasturgie, enfin de la collecte, parce que aujourd'hui, on peut collecter, transformer les déchets, mais il n'y a pas de normes. Les normes déjà pour mettre en place une collecte efficace. Par exemple, en France, on sait qu'il faut trier ses déchets. On a une poubelle jaune, une poubelle verte, une poubelle noire. Voilà, il y a le plastique et d'autres déchets qui partent là-bas. Ce qui permet en fait d'avoir en fait aussi une matière efficace et donc un produit de qualité.
Vous êtes aussi le lauréat du concours Meet Africa cette année. Qu'est-ce que ce type de concours peut changer dans votre projet?
Alors, nous remercions déjà l'État français pour la mise en place de cette disposition qui permet aujourd'hui donc à des porteurs de projets de la diaspora qui rencontrent donc des difficultés autres aussi en France, parce qu'on ne rentre pas dans des cases le fait d'être diaspora et que nos projets ne soient pas territoriaux. Donc une fois que le projet n'est pas sur le sol français, on n'a pas de moyens d'être accompagné juridiquement pour la conception du projet et même pour le financement. Donc ça rend cela difficile. Aujourd'hui, ça c'est possible avec ce dispositif et on va plus loin. On peut même avoir en fait un accompagnement ou une mise en réseau important. Donc ça nous apporte du crédit auprès des investisseurs et notamment auprès des banques locales dans les pays d'origine.
Merci Aboubacar Bamba.
C'est moi qui vous remercie.
C'était une conversation avec notre initiative de la semaine, Aboubacar Bamba. Merci à vous, auditeurs et auditrices. Merci à l'équipe de l'émission, Guillaume et Beverly. La semaine prochaine, nous serons à la 4e édition du Rebranding Africa Forum à Bruxelles, qui s'intéresse cette année aux réseaux sociaux, à ses enjeux éthiques, politiques, sociaux, économiques et à ses opportunités d'investissement. D'ici là, je vous souhaite un très bon week-end.
Tout à l'heure sur RFI.